Bien, écoutez, nous allons tout de suite commencer et je voudrais d'abord vous faire une annonce et vous me rappellerez, si je l'oublie, de la refaire aussi à la fin de la séance. C'est que le cours de texte de demain matin va être un peu décalé. Je viens d'apprendre que j'ai une obligation à laquelle je ne peux pas me soustraire. Au lieu de commencer à 11h, le matin, il commencera à 10h. Jusqu'à 11h, 11h15 à peu près. Ensuite, je serai obligé de partir. Si vous devez d'ailleurs le signaler à d'autres participants au séminaire, faites-le. D'autre part, je dois m'excuser pour jeudi dernier. J'ai eu un empêchement, comme vous le savez. Ce qui m'oblige donc à rassembler autant que se peut, et je vais essayer de faire tout mon possible à ce sujet, les deux premiers sujets du programme dans la soirée de ce soir. C'est-à-dire, d'une part, le problème de la création d'après le discours kabbaliste, et d'autre part, corollairement, le problème du mal. Ce qui nous obligera peut-être à restreindre un peu le temps des questions, mais on essaiera de se rattraper demain soir et mercredi soir pour les deux autres parties du séminaire. Est-ce que je pourrais, en attendant, demander à la cabine de mettre au point le micro, parce qu'il me semble qu'il y a un écho. On ne peut pas ? Il faudrait peut-être le... vous arrivez à m'entendre ? Il faut le rapprocher. Est-ce qu'il y a un spécialiste là-dessus ? Ça va mieux ? Mais là, je vais pleurer. Je vais mettre un peu de côté. Bien. Alors, je vais donc reprendre très brièvement l'exposé des raisons pour lesquelles... Non, pas trop près. Non, je ne vois rien. Et l'exposé des raisons pour lesquelles nous avons choisi cet intitulé de séminaire et qui se divise, comme vous le savez, en cours de texte le matin et conférence générale en soirée. L'intitulé des cours de texte du matin, c'est le problème général qui se formule en langage philosophique, nature et morale. Et dans les soirées, j'ai choisi quatre problèmes qui me semblent assez fondamentaux pour élucider les thèmes familiers au discours des kabbalistes. Je précise d'ailleurs que dans le vocabulaire habituel, nous ne disons pas le discours kabbalistique, c'est un terme péjoratif, mais kabbaliste, je m'en expliquerai un peu tout à l'heure, je crois que la nuance est quand même importante. Et ce sont d'une part le problème de la création, d'autre part le problème du mal, et comme je viens de le dire, nous essaierons de rassembler ces deux problèmes ce soir. Le troisième problème est celui qui se nomme la restauration des mondes, en hébreu le tikkun. Et le quatrième problème, et ce sera une sorte d'achèvement de ces analyses, mais qui en réalité dans le contenu devrait servir de préface à l'ensemble, mais vous comprendrez, j'espère, pourquoi nous avons laissé cela pour la fin, c'est de tenter de définir la tradition de la Kabbalah comme fondement du judaïsme en tant que religion. Tous les termes étant importants d'ailleurs, et j'en arrive tout de suite au propos de l'introduction, c'est que, alors que nous sommes un certain nombre à être très réticents, selon la tradition kabbaliste elle-même, à traiter de ces problèmes en public, surtout étant donné la disparité des formations culturelles du public par définition, et surtout dans une langue qui n'est pas l'hébreu ou l'araméen, et de façon privilégiée, il faudrait et l'hébreu et l'araméen, d'ailleurs, c'est-à-dire qui n'est pas la langue originelle, mais nous sommes obligés quand même d'intervenir dans ce problème de formulation, au moins au niveau du discours, étant donné le risque d'un certain confusionnisme qui peut apparaître dans le monde culturel contemporain, surtout à une époque où l'intérêt pour ce qu'on appelle la Kabbale en général, en hébreu la Kabbalah, semble, et cela semble être contemporain à la fois de la fin de la dernière guerre mondiale et de l'apparition de la société israélienne, en particulier les universités israéliennes, et autour de certaines yeshivot, de certaines écoles talmudiques, un intérêt considérable pour le contenu même du discours kabbaliste. Or, cet intérêt a mené À différents niveaux, parce qu'évidemment, les études et les recherches dans les universités proprement dites ont le minimum de sérieux scientifique, entre guillemets ou pas d'ailleurs, concernant toutes les recherches universitaires, mais cela a mené à tout un vocabulaire et toute une littérature de vulgarisation de ce type d'intérêt, de ce type de discours. Et en particulier, je crois qu'il faut se garder de deux écueils. D'une part, peut-être de trois, enfin qui vont ensemble. D'une part, la confusion qui risque de s'établir dans les esprits entre le vocabulaire et la problématique du discours philosophique d'un côté et d'autre part du discours kabbaliste. Et j'en parlerai assez abondamment ce soir. Et puis, un deuxième écueil, c'est de confondre l'intérêt à la Kabbalah comme tradition du judaïsme et science de cette tradition avec, quelles que soient les définitions que l'on se donnerait de ce mot, avec une tendance mystique quelconque. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas des kabbalistes qui soient des mystiques. Cela ne signifie pas non plus qu'il n'y ait pas des talmudistes, c'est-à-dire des non-kabbalistes, qui ne soient aussi des mystiques. Mais il y a une telle vague dans le vocabulaire de la mystique, surtout dans les cultures contemporaines et dans les langues véhiculaires des cultures contemporaines, qu'il y a là un danger indéniable. L'aventure de l'expérience mystique se mêlant très souvent à d'autres types d'aventures psychologiques, en particulier l'écueil d'un symbolisme de signification magique plutôt que traditionnel à proprement parler, et je devais le signaler. Puis, troisièmement, corollairement, de distinguer aussi ce discours de l'utilisation parfois très pertinente et parfois très efficace qui peut en être fait au niveau du discours littéraire à proprement parler. Et voilà donc, si vous voulez, les raisons assez immédiates et devenant de plus en plus urgentes, vu l'intérêt global pour les choses du judaïsme en général qu'il y a dans la culture contemporaine, qui ont mené un certain nombre d'entre nous à se décider à sortir, comment dire cela sans que ça soit trop, à la fois trop vague et trop précis, d'un certain silence auréolé de mystère initiatique, si je le dis. Alors, il ne s'agit pas de cela. Je vais faire un aveu préalable. On ne va pas parler de Kabbale à proprement dit, à proprement parler, parce que cela ne peut s'étudier que dans les textes originels, même pas dans les traductions les plus fidèles soient-elles, et à travers les implications des concepts et des catégories des langues originelles. Ça ne signifie pas que cela ne peut pas être traduit, mais c'est une longue assaise d'études dont l'essentiel est la communication orale, patiente, et qui demande énormément de temps. Parce que, comme nous allons le voir assez rapidement, ça nous oblige, à propos de chaque point, et parfois, il faut y revenir très souvent, à remonter dans le temps jusqu'au temps de la signification de l'hébreu comme langue de la prophétie hébraïque. Et c'est énormément de temps qui aura passé depuis ce temps-là. Il y a donc une remontée dans la mémoire traditionnelle, mais non pas, encore une fois, à travers une expérience philosophique ou pseudo-philosophique, mystique ou pseudo-mystique, littéraire ou pseudo-littéraire. Ce sont des catégories qui existent pour elles-mêmes et qui ne recoupent pas forcément l'objectif, les contenus, le langage, les méthodes, les postulats du discours kabbaliste à proprement parler. Lorsqu'on tombe dans ces dangers, alors apparaît cet adjectif kabbalistique qui veut dire ce qu'il veut dire dans les dictionnaires, mais qui est évidemment négatif et en soi hors propos. Je crois qu'il faut le rattacher, il m'arrive souvent de le répéter, je crois que c'est important, à ce que je viens d'indiquer. L'intérêt pour le judaïsme en général, et tout ce que cela implique, les juifs, le judaïsme, la judéité, les juiveries, Israël corollairement, l'histoire de ce peuple, les mystères de présence qu'il représente, les problèmes qu'il pose au monde et que le monde lui pose, il y a un intérêt croissant, assez fulgurant, vu la rapidité des rythmes, depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Cet intérêt a été remarqué. Il est premièrement un intérêt bibliographique. Énormément de textes s'éditent dans toutes les langues, en hébreu aussi d'ailleurs, en hébreu moderne, vernaculaire comme on pourrait dire, j'ajouterai. Et je me souviens que quelques années à peine après la guerre, Elie Wiesel, qui était en France à ce moment-là, en avait parlé de la manière suivante, et je crois que je pourrais reprendre à mon compte son propos. Il nous rappelait le temps où on ne trouvait pas les ouvrages que l'on trouve aujourd'hui, les publications, les thèses au sujet des choses juives. Je crois qu'il me semble avoir cité la semaine dernière d'ailleurs un autre public. Et puis subitement, nous nous trouvons devant une véritable explosion de littérature concernant les choses du judaïsme, de tout niveau. Au fond, à la limite, on pourrait dire qu'il suffit d'écrire un livre sur ces sujets-là, quel que soit le contenu, c'est un succès de librairie. C'est bizarre, enfin c'est étonnant d'une certaine manière. Elie Wiesel avait une réponse qui me semble encore très actuelle. C'est que après les événements de la dernière guerre mondiale, et je vous rappelle ces deux pôles qu'on ne peut pas oublier, indépendamment de milliers de péripéties tout autant tragiques les unes que les autres, pour ceux qui ont vécu ces générations-là, vous vous en souvenez, les autres le savent aussi, déjà malheureusement que par vous le dire, mais nous sommes encore très proches. C'est Auschwitz d'un côté et Hiroshima de l'autre, l'humanité découvre subitement qu'elle vit, qu'elle existe sous la menace du risque de destruction totale. Finale, je reprends les mots qui me reviennent en mémoire, subite. Or, elle découvre un peuple qui a toujours existé ainsi. Et semble-t-il, l'humanité lui demande comment il a fait. Il est possible qu'elle ait une réponse qui mérite d'être réfléchie, qu'on y réfléchisse. Mais il n'en reste pas moins que le fait est là. Il y a un intérêt tel que, pour les choses du judaïsme, que les écrivains de quelque ordre que ce soit semblent ne pas avoir le temps de peser leurs mots, de préciser leurs pensées suffisamment pour que cette tradition qui s'est connue pendant des millénaires comme comptant, mesurant les lettres qu'elle emploie dans son discours, subitement se déverse un flot de paroles, un flot de textes. Il semble que nous soyons pris par le temps, d'où la nécessité, encore une fois, et je referme cette parenthèse, au moins de communiquer, du point de vue de la tradition elle-même, des précisions de langage et des mises au point concernant le discours à proprement parler. Je répète très brièvement, ces postulats, ces méthodes, ces contenus et ces sujets de préoccupation. Nous n'avons pas d'ailleurs changé de sujet en indiquant que le fond des contenus, c'est le caractère très angoissant du sens de la destinée de l'homme dans le monde qui est le sien, et avec en filigrane ce qu'avait dit Elie Wiesel, le fait que c'est sérieux et que effectivement l'humanité de notre temps, c'est que non seulement les hommes à l'échelle individuelle, ce qu'ils savaient, sont mortels, mais que l'humanité elle-même est précaire. D'où peut-être, encore une fois, un halo d'intérêt supplémentaire pour ces sujets, mais d'où, en tous les cas, la nécessité de ces mises au point. Il est bien clair, pour le sérieux de quelque méthode d'étude scientifique que ce soit, quel que soit le sens qu'on donne au mot scientifique, qu'il est faux qu'on puisse dire n'importe quoi de n'importe quoi, qu'il est faux qu'on puisse parler de n'importe comment de tout, et qu'en tout cas, il est faux que ni dans la Bible, ni dans le Talmud, ni dans les textes de la Kabbalah, bien entendu, on puisse trouver une chose et son contraire, ou n'importe quoi. Tout ceci est faux, c'est d'un approximatisme, on dit cela, peu importe, c'est bien moins approximatif, absolu, et d'un amateurisme regrettable. Je rappelle en tout cas essentiellement, et cela je ne voudrais pas le répéter, mais ça ira de soi à chaque analyse, de la nécessité impérative de l'hébreu et de l'araméen, et en tout cas pour l'hébreu, dans le sens de ce que nous appelons en hébreu, et surtout dans la tradition kabbaliste, le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire l'hébreu pas seulement en tant que langue de communication des consciences, mais aussi et surtout en tant que langue d'expression de la révélation biblique, et littéralement ça signifie en tant que l'hébreu est le langage qui a pour objet d'exprimer la chose qui s'appelle sainteté. Et en hébreu, nous avons deux mots différents pour dire la sainteté elle-même et ce qui fait que la sainteté est la sainteté. Le lachon hakodesh, et non pas seulement le lachon kadosh, pour les hébraïstes. Et cela me mène à une deuxième introduction que je ferai la plus brève possible, mais qui me semble absolument indispensable pour la partie de ce sujet que je voudrais traiter dans ce séminaire, c'est-à-dire mettre en évidence la distinction de ces deux discours, le discours philosophique et le discours kabbaliste. Étant donné que la plupart des auteurs contemporains parlant, surtout dans les langues étrangères à la tradition kabbaliste elle-même, des choses de la Kabbale, ont choisi d'utiliser le vocabulaire philosophique pour traduire ce qu'ils ont à dire du contenu du discours kabbaliste. Surtout aussi que, et c'est centralement le cas dans les universités israéliennes, mais pas seulement les universités israéliennes, dans tous les secteurs d'université de la diaspora juive ou du monde entier où on s'occupe de ces questions, on a pris l'habitude, et peut-être sans prendre garde à ce qu'on était victime d'une espèce de force d'inertie qui dure depuis des siècles, peut-être depuis l'origine de la civilisation contemporaine, depuis 2000 ans et plus, depuis les premiers philosophes grecs concernant les choses du judaïsme, cette méthode qui consiste à chercher à tout prix des analogies dans d'autres traditions, dans d'autres registres culturels, mais avec une systématisation telle que ce n'est plus des analogies seulement que l'on cherche, mais on cherche une filiation, comme si la tradition hébraïque n'avait jamais rien pensé par elle-même et que tout est un emprunt étranger. C'est un autre sujet, mais je le signale en passant, et je crois que cette habitude d'inertie a joué, encore une fois, en ce qui concerne les problèmes de la Kabbale, qu'on a tendance dans les publications à ce sujet à rattacher à la gnose. Je ne voudrais pas parler de la gnose, mais je veux simplement vous signaler cela. Et je crois que c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de lire, cette année, les mois derniers, dans une publication en français qui s'appelle Pardès, je ne suis pas chargé du tout de vous en faire la publicité, un article de Charles Mopsik, il mérite que son nom soit cité, qui pour la première fois, ma connaissance en français en tout cas, a remis en question cette méthode qui est à la limite assez frauduleuse et peut-être d'un arrière-fond antisémitique. C'est-à-dire ce postulat que rien de la tradition juive n'est originel ou original et que tout est emprunté dans le bric-à-brac des choses incompréhensibles de la non-culture de l'histoire humaine tout entière. Je ne sais pas si je suis arrivé à exprimer ce que je voulais dire, les exemples sont foison. Si donc cette mise au point commence à être faite, c'est un bien et c'est un peu à cela que je voudrais essayer de participer dans ce séminaire. En tout cas, en ce qui concerne la différence entre le discours philosophique et le discours de la Kabbalah, eh bien, ce que je veux dire est aussi valable à certains niveaux pour le discours juif traditionnel en général, que ce soit celui de la tradition exotérique, essentiellement talmudique, du judaïsme rabbinique, que ce soit celui de la tradition ésotérique, donc la Kabbalah, qui est elle-même, premièrement, dans tous les cas, aussi faisant partie du courant central du judaïsme rabbinique et talmudique. Petite formule très simple mais qui est très importante, tous les kabbalistes sont premièrement talmudistes. L'inverse n'est pas vrai. Tous les talmudistes ne sont pas kabbalistes, on s'en fout. Mais je crois qu'il est nécessaire de retenir cela. Lorsque nous étudions un texte de Kabbalah, lorsque nous recevons un enseignement d'un maître de Kabbalah, il y a tout l'arrière-fond du judaïsme rabbinique et talmudique qui est nécessaire pour comprendre de quoi il est parlé. Et bien entendu, il s'agit d'abord de l'exégèse de la Bible hébraïque. Or, c'est précisément là qu'est le point central de cette séparation entre les perspectives et l'univers du discours philosophique d'un côté, du discours kabbaliste de l'autre. Je ne reviens pas sur le fait que ce que nous allons entendre est aussi valable en partie pour le discours traditionnel en général. Je parle de la tradition juive, et en particulier talmudique. C'est ceci, c'est qu'il y a un fait historique important qui semble être scotomisé littéralement. C'est le fait que la Bible hébraïque se présente comme la parole d'une prophétie révélée. Or, elle dit elle-même, à la fin de son discours, que cette révélation va cesser. Et précisément, on a oublié que cette révélation a cessé, c'est pourquoi on a oublié qu'elle a existé. Voilà, je crois, le fait central duquel nous allons partir pour comprendre un certain nombre de différences entre le discours philosophique et le discours kabbaliste. Et je dirais immédiatement que la difficulté propre à l'enseignement des kabbalistes, ce qui explique pourquoi, à travers des millénaires et des siècles, c'était, mettez ça entre guillemets, initiatique, c'est-à-dire réservé à une tradition de maître à élève. Et je ne voudrais pas qu'on introduise dans ce terme d'initiatique quoi que ce soit de mystique ou de magique, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Le mot ayant leur sens simple. C'est le fait que les exégètes de la prophétie hébraïque vont se trouver vivants dans le monde des philosophes, c'est-à-dire dans le monde où la révélation a cessé. Ils vont donc faire allusion à une expérience antérieure, le temps de la Bible hébraïque, dont l'identification ne peut plus se faire par la pensée livrée à ses propres forces, à ses seules forces, ce qui est le premier postulat de la pensée philosophique. Il est donc nécessaire qu'il y ait un préalable d'initiation du sens des mots de l'hébreu biblique lui-même pour pouvoir comprendre non seulement le texte hébraïque de la Bible dans sa vérité, mais pouvoir comprendre les implications que le discours kabbaliste de son côté va transmettre dans les temps culturels successifs jusqu'à nous. Cela dure plus de 2500 ans, cette interruption, le temps de l'interruption de la prophétie. Or, on ne peut pas ne pas être frappé de cette contemporanéité. Le discours philosophique commence dans l'histoire de la pensée humaine au moment où la révélation prophétique cesse. Ce n'est pas notre sujet ce soir, ça devrait être développé considérablement, mais il suffit de rappeler le moment historique. Le résultat en Occident de l'arrêt de la révélation prophétique, c'est la philosophie. C'est la conscience philosophique, c'est la méthode philosophique. Elle a une très longue histoire, elle aboutit assez rapidement à la conscience de l'esprit scientifique tel que l'Occident l'a connu, elle a développé à l'échelle de l'universel humain, c'est l'état actuel de la culture contemporaine, indéniablement, mais il y a eu donc un événement historique extrêmement important. Précisément, et on dirait que cette phrase « en Orient, la réaction à l'arrêt de l'événement de révélation qui a été universel, le cas Israël étant particulier, j'y reviendrai, mais l'événement de révélation a été universel, la mémoire de toutes les sociétés, de toutes les cultures en fait foi, chacune à sa manière. Mais en Orient, la réaction a été ce que nous appelons, nous occidentaux, ou de culture occidentale, la mystique. Mais la tradition, à proprement parler, de lecture de la Bible, est d'une autre nature, elle est la capacité de fidélité à la lecture hébraïque de la Bible telle que elle a sa signification dans le langage des prophètes qui ont dit cette parole. Vous comprenez donc que c'est un sujet considérable auquel nous allons nous heurter ce soir, dès ce premier préalable, non seulement parce que le sujet serait difficile en lui-même. Il y a eu un temps où c'était, comme nous disons en langage juif, les enfants des Talmud et Torah qui apprenaient cela, c'est-à-dire les enfants au catéchisme qui apprenaient cela. Maintenant, c'est devenu affaire de spécialistes au 13e degré. Non que le sujet soit vraiment difficile, mais tellement de choses ont été dites, ont été écrites, ont été transmises, commentées, annotées, tant de thèses ont été faites sur ces problèmes, la création, le mal, les mondes, la religion, que finalement, la nécessité de tenir compte de tous ces discours-là, et ils sont innombrables, a rendu ces problèmes très difficiles. Je vais donc par méthode, non pas les mettre en parenthèse, c'est impossible. La table rase, c'est une méthode, ça ne peut pas être une réalité immédiate. Mais je voulais signaler que, bien sûr, il y aura en filigrane de tout ce que nous dirons, la référence possible à tout ce que les discours des historiens de ces problèmes ont pu établir, bien évidemment, mais comme nous avons peu de temps, je m'en tiendrai à l'essentiel. Donc, premier postulat du discours philosophique, et il faudrait bien que ce soit très clair avant de pouvoir continuer, c'est que le discours philosophique se fonde dans la négation de la révélation de la prophétie, quelle qu'elle soit, hébraïque y compris. Et par conséquent, elle se fonde, cette conscience philosophique, sur la négation pure et simple de tout ce qui est dit du Dieu de la Bible, si l'on prend les choses au sérieux. Si c'est fiction mystique, si c'est fiction littéraire, on continue de parler en employant les mêmes mots apparemment, mais je pense qu'il est bien clair qu'un philosophe peut être d'autre part croyant, il peut être d'autre part lecteur des livres de Kabbalah même, mais ce n'est pas en tant que philosophe. Les présupposés, les méthodes, et donc le discours, le vocabulaire même du discours philosophique, sont dès l'origine, dès l'axiome principal, radicalement autres. Il s'agit d'un monde où il n'y a jamais eu de révélation, où la pensée humaine est souveraine, où elle est autonome et où elle ne dit que ce qui lui paraît être vrai. Et on pourrait disserter longuement sur le principe des évidences de base de la conscience philosophique, qui a sa dignité propre, mais je vais tout de suite indiquer qu'il ne faut pas modifier les données de notre problème pour pouvoir avancer dans l'analyse. Alors qu'au contraire, littéralement au contraire, le postulat du discours kabbaliste, c'est premièrement que la révélation a eu lieu, deuxièmement qu'elle a cessé, troisièmement qu'elle est intelligible à condition de pouvoir s'y référer dans les catégories que le texte biblique, tel qu'il est écrit et il est entre les mains de l'humanité entière en hébreu originel, se trouve avoir été écrit. Et je vérifie si je n'ai rien oublié d'essentiel. Et je passe immédiatement au premier problème, qui est celui de la création. Bien entendu, je me bornerai à vous donner, pour ce premier problème et pour le suivant, le problème du mal, qu'un certain nombre de principes, de têtes de chapitre, et j'espère quand même que nous aurons le temps de pouvoir en disserter ensemble en fin de séance. Sinon, étant donné que l'économie de ce programme réclame cet ordre des notions, nous avons encore la soirée de demain soir et d'après-demain soir. Bien, je vais d'abord expliquer très rapidement comment le problème de la notion de création se pose à la conscience philosophique. Bien, pour la conscience philosophique, qu'elle y adhère ou pas, et énormément de philosophes y adhèrent, énormément de théologiens qui ont adopté le discours philosophique comme véhicule de l'exposition de leur foi y adhèrent aussi, de cette manière-là, eh bien, pour la conscience philosophique, la notion de création ne peut être qu'objet de foi. Elle ne peut pas être objet de pensée. Je vais essayer très brièvement de dire pourquoi. D'abord, à cause des lois de la raison. Et c'est que cette notion de création, si elle est prise au sérieux, enveloppe une contradiction absolue et est rebelle au principe d'identité qui est le principe de base de la pensée philosophique. Même des philosophies non-na, comme on a l'habitude de dire, même ceux qui admettraient des discours dont l'axiome ou le postulat ne serait pas le principe de non-contradiction, qui est une autre manière de dire le principe d'identité. Mais là, nous avons, par privilège, si j'ose dire, une notion qui rassemble toutes les difficultés de la contradiction au principe d'identité. Je le dis d'abord en formulation simple et classique. La notion de création prise au sérieux se dit en français « création ex nihilo ». J'ai dit en français, mais que ce soit du latin. « Ex nihilo », ça veut dire « à partir du néant », »,« à partir de rien ». Et vous voyez très rapidement que cette notion enveloppe une contradiction fondamentale qui consiste à dire que l'être vient du néant. La réponse classique à une telle formule, c'est en latin « ex nihilo nihil ». À partir de rien, il n'y a rien, à moins de mettre en congé le principe fondamental de la raison humaine. Et c'est pourquoi, même lorsque les philosophes manient cette notion de création, ou bien ils lui donnent un sens métaphorique, ou bien il la considère, en toute honnêteté d'ailleurs, comme un objet de foi. C'est parce que d'autre part, ils ont des raisons religieuses ou mystiques ou autres, parfois même kabbalistes, de savoir que cette notion est vraie. Mais ils la pensent et la présentent et l'exposent comme rebelle à toute compréhension. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais je crois que c'est important de découvrir cela dès le début. Je pense qu'il suffit de l'avoir dit ainsi, votre silence m'encourage à continuer, et alors que le discours kabbaliste va, s'appuyant bien sûr sur le récit biblique, j'ai le premier chapitre de la Genèse ici, va faire précéder cette notion de création de l'être à partir du néant, d'une notion préalable qui est exactement inverse, et sur laquelle nous aurons à réfléchir un peu plus longtemps, qui est de l'apparition du néant à partir de l'être. Et cette notion s'appelle, dans le vocabulaire kabbaliste, ou du moins le terme que je vais employer nécessaire pour aborder cette notion, s'appelle le tzimtzum. Je pense que vous avez déjà abondamment rencontré cette notion dans les ouvrages de vulgarisation à ce sujet. Nous verrons un certain nombre d'implications importantes de ce fait, mais d'abord je voudrais vous décrire cette notion. En procédant le plus lentement possible, pour ne pas risquer d'être obscur, puisqu'en général le discours kabbaliste ne parle que de lumière, mais si à partir de maintenant il y a un terme qui vous paraît pas clair, vous pouvez m'arrêter tout de suite, ça m'aidera à continuer. C'est ceci. Nous avons l'expérience, dans le monde qui est le nôtre, de présence qui se néantise. Nous n'avons pas, apparemment, je dis bien apparemment, l'expérience d'apparition à partir du néant. Bien entendu, à moins d'être dans un univers pathologique, mais à moins d'être dans un univers magique. Okay. Mais c'est la fiction, pour le sérieux de ces problèmes. Et il s'agit, à la limite, de l'expérience de la mort. C'est-à-dire qu'il y avait là une présence qui disparaît. Et donc la notion de néantisation de l'être est plus familière à notre expérience. En vérité, les kabbalistes disent, ajoutent, que l'autre notion, l'apparition de l'être à partir de néant, nous en avons aussi expérience, mais notre mentalité culturelle n'y prend plus garde. Surtout depuis, peut-être, on pourrait le dire ainsi, depuis ce fameux principe que rien ne se perd, rien ne se crée, peut-être que tout est secret, mais vous comprenez la formule, surtout... depuis que la mentalité de la science moderne est positive, a substitué au concept de création dans l'ancien sens traditionnel et biblique, le concept qui était de création à partir du néant, le concept de modification, de changement de l'être antérieur. Et donc, je pense que pour la mentalité culturelle contemporaine, cette notion qui résulte du tzimtzum, que je n'ai pas encore traduit, et qui fait apparaître le néant dans lequel le monde sera logé, les mondes seront logés, le néant dans lequel l'être va réapparaître, est beaucoup plus intelligible que la première notion classique de création ex nihilo dans son contexte philosophique qui reste irrémédiablement incompréhensible pour la raison. Ça ne signifie pas qu'elle n'ait pas un sens, ça ne signifie pas qu'elle ne soit pas vraie, mais à quelles conditions ? C'est ce que je disais tout à l'heure rapidement en disant qu'elle est, elle reste, objet de foi, même pour le théologien le plus rationaliste, même pour le philosophe le plus rationaliste qu'il emploie. Et en tout cas pour une raison élémentaire, j'en dirais peut-être deux. L'élément, c'est que, en général, lorsqu'on parle de la notion de création prise au sérieux en relation au discours biblique, cela signifie que c'est Dieu qui crée. Mais si Dieu est, et en prenant le sens des termes au sérieux, il est tout. Et par conséquent, l'idée même de la place pour un monde n'a pas de place dans la pensée. L'être absolu est absolument, donc il est tout. Et par conséquent, l'idée de créer à partir d'un néant lequel, alors que Dieu auquel on a fait allusion est censé l'être absolu qui est tout, est de nouveau contradictoire. Et c'est pourquoi dans certaines philosophies anciennes, on parlera d'un démiurge, mais qui va créer le monde à partir d'un néant, mais qui serait préexistant à ce que l'on appelle Dieu dans de tels courants philosophiques, ce qui est plein de contradictions, en tout cas qui est complètement étranger et pas du tout homogène à l'atmosphère du récit biblique, et donc à la Kabbale, bien évidemment. Voilà donc la première notion, et la raison, j'en ai dit une seule, mais je voudrais en ajouter une autre, c'est que je vous avoue que ce point précis m'échappe, mais ça me reviendra probablement tout à l'heure. Je crois que déjà cela suffit de retenir le caractère alogique, beaucoup plus qu'illogique, d'une telle notion, création ex nihilo. Et j'ajoute, oui, ce que ça ne signifie pas qu'elle ne soit pas vraie. Mais je vais le dire maintenant en hébreu, et peut-être faudrait changer un peu les termes. En hébreu, ça se dit, ex nihilo se dit yesh me aïn, l'être apparaissant du néant. Mais la notion de Kabbale, de la Kabbalah, qui est que le néant est d'abord, vous voyez qu'on manque de mots, créer, fait apparaître, ça n'a pas de sens pour dire créer le néant, mais fait apparaître, disons, aménager. Alors ensuite seulement, l'être vient dans le néant. Et il faudrait dire yesh be aïn, et pas yesh me haïn, de telle sorte d'aménager, et c'est ce que dit le vocabulaire kabbaliste, d'aménager cette notion. Voilà donc le point essentiel de la définition. C'est-à-dire qu'une création de l'ordre inverse de celle dont parlent les philosophes précède celle dont parlent les philosophes. De telle sorte que cet objet de foi commence à devenir intelligible. Mais on arrive tout de suite à l'essentiel. C'est le fait qu'un tel acte nous est présenté dans le discours public, non pas comme un mécanisme aveugle, non pas comme un processus impersonnel, mais comme le résultat de l'intention d'un acte de volonté. C'est-à-dire, plus encore, cet être absolu, primordial, dont on parlera lorsqu'on fait allusion par le terme de Dieu, en parlant de Dieu, n'est pas présenté, ce qui est l'habitude en général, il y a des exceptions quand même, dans l'univers de la philosophie, comme étant pensée pure, mais comme étant volonté pure. Il y a un deuxième postulat radicalement différent. Tout ceci, bien entendu, demande et mérite d'être précisé, approfondi, enrichi, et c'est l'objet et le sujet d'énormément d'études. Mais je voulais vous donner d'abord la distinction des postulats et des axiomes de ces deux discours. Plus encore, sinon le discours moral, j'ai anticipé, le discours public serait incompréhensible, cette volonté est essentiellement morale. Pour expliquer ceci, c'est que l'acte de création lui-même n'est pas entendu et compris comme un acte de nature ontologique, métaphysique seulement, mais comme un acte moral par excellence. Plus encore, comme l'acte moral par excellence. Et je m'explique, et vous verrez à quel point c'est simple, c'est que créer à ce niveau et dans ce sens, les mots étant pris dans leur sens simple mais au sérieux, cela signifie faire exister autre. Avant ce processus décrit par la notion de création ainsi entendue, Dieu est seul. Et il n'y a personne pour le dire, puisque nous, les hommes, nous ne sommes pas Dieu, selon le récit biblique. Nous sommes les créatures conscientes. Et créer, cela veut dire donc briser cette solitude et faire exister autre. Or, c'est la définition même du fondement de la valeur morale, de l'acte moral, de la moralité dans tout le discours. Et par conséquent, nous n'avons pas là du tout une notion métaphysique, abstraite, impersonnelle, mais un acte de volonté morale. Hors de quoi, ou à partir de là, plus exactement, on comprend à quel point les deux discours divergent. Le philosophe sera à la recherche du fondement de la morale, et c'est un des sujets, un des éventails de sujets les plus considérables de la réflexion philosophique, qui est tout entière question à ce sujet. Quelles que soient les réponses entrevues, les questions ressurgissent. Le fondement de la morale, de la valeur morale, ce qui fait que l'obligation morale est perçue comme obligation morale, est un des mystères de la philosophie, je dis bien de la philosophie. Et non seulement il n'y a pas accord entre les philosophes, mais à ma connaissance en tout cas, et nous pourrions en discuter, aucun système de philosophie n'est arrivé à donner de fondement moral à la valeur morale. Il y a toujours substitution de concepts, réduction à un concept différent, qui est probablement celui de la plus grande mode culturelle du temps, et que l'on propose comme véhicule de la valeur morale elle-même, rationalité, utilité, devoir, etc. C'est une réduction de la valeur morale comme telle, à autre chose qu'elle-même, parfois très près, parfois se recoupant, mais qui n'est pas vraiment elle-même. C'était une parenthèse, mais je crois importante. Le problème du fondement de la valeur morale reste une question de philosophie, en fin de compte, à un niveau de sérieux des problèmes, sans réponse, alors que c'est le commencement du discours kabbalistique. Parce que, encore une fois, créer, ça veut dire faire exister autre. Or, c'est la relation à autrui, mais dans le discours biblique, elle est réciproque, elle n'est pas univoque, et c'est une précision qui est importante dans notre temps culturel, eh bien, qui est l'acte créateur, d'une part, mais l'acte moral par excellence, d'autre part. Il résulte que ce que l'on appelle le chaos originel n'est pas du tout originel. C'est-à-dire que la notion de création dans le discours kabbalistique précède la notion de chaos. Le chaos est le résultat du fait d'avoir créé. Et vous retrouvez la lecture simple du discours biblique. Ici, déjà, je touche en quelque manière à la transition avec le deuxième point, le problème du mal. Et il en résulte, si vous voulez, que le résultat d'avoir créé, par le fait que cela fait exister autre que Dieu, inévitablement nous renvoie d'emblée, dans l'instant, à l'opposé de l'être absolu, l'être de chaos. Il faut, je crois, simplement réfléchir à cela, que c'est la condition de l'existence de l'autre. Pour que l'autre que Dieu existe, il faut qu'il ne soit pas Dieu. Or, Dieu étant, dans les postulats de ce discours, l'absolu, par définition, le projet de créer, crée le chaos. Peut-être que ce n'est pas suffisamment clair, et je reprends un peu en nuançant, en atténuant un peu la difficulté pour commencer, c'est que la condition de l'existence de l'autre, c'est qu'il soit différent. Il n'y a pas d'autre manière d'être différent du parfait que d'être imparfait. Je pense que c'est suffisamment clair. Autrement, il y aurait confusion des substances, et nous savons bien qu'il n'en est pas ainsi, il y aurait impossibilité de l'existence du créé. Et donc, c'est le créé comme tel, le projet du créé comme tel, qui entraîne le deuxième problème, l'existence du mal. Mais comme le chaos est intérieur à un projet, il est entendu d'emblée comme ayant une finalité, et donc comme provisoire. Alors, je pense en quelques phrases, nous avons changé d'atmosphère. Dans le discours philosophique, la notion de création est impensable, et le problème de l'origine du mal n'a pas de solution. Et on s'épuise, même lorsqu'on a décidé de risquer d'être blasphémateur, à imputer le mal à Dieu ou à ne pas en parler. Et ne pas en parler de l'origine du mal, c'est finalement, d'une quelque manière, sombrer dans la désespérance. Parce que si on ne peut rien dire de l'origine, il n'y a pas de fin. Et alors que le discours biblique est tout entier un discours d'espérance. Par hasard, mais il n'y a pas de hasard, j'ai assisté hier soir à un débat sur un problème très analogue, qui était un dialogue à trois orateurs, qui s'est passé à l'École normale de l'Alliance, entre le professeur Lévinas, le professeur Ricoeur et le père Dupuis. Ils ont parlé de problèmes qui touchent un peu ces questions, c'est pourquoi je les cite. On n'a pas le droit de parler de gens qui ne sont pas présents, j'en dirai pas plus. Mais comme il est possible que dans la salle il y ait des assistants d'hier soir à ce colloque, je voudrais au moins rappeler pour eux, mais je le dis objectivement pour tous les autres, que l'atmosphère de l'abord philosophique de ce problème est très pessimiste, ne peut être que très pessimiste, et ne peut mener que, de quelque forme que ce soit, à une pensée stoïcienne qui, malgré tout, veut garder la vertu. J'en dirai pas plus. Alors que le discours biblique est d'une toute autre allure. Le mal a une origine, mais c'est le créer lui-même. C'est la nécessité, dans le sens philosophique logique, du fait d'avoir voulu créer. Or, c'est la condition de notre existence. À moins de tomber dans cette dérédiction absolue, qui est celle de la créature devenue malade, prise de vertige, de se prendre pour l'être absolu, c'est-à-dire pour Dieu. Ces maladies existent, mais le sérieux du philosophe essaye d'éviter les allusions à ce que peut-être il n'en est qu'ainsi. Je pense en avoir dit l'essentiel pour cette transition. Je crois que c'est très important. Je vais vous lire en français directement, en traduisant assez littéralement de l'hébreu, les deux premiers versets de la Bible, en retrouvant avec vous cette surprise que le philosophe nous empêche d'avoir. Que le discours philosophique, bien sûr. C'est « Au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre », premier verset. Deuxième verset, « Et la terre était chaos ». Le terme hébreu employé, et il y a tout un enseignement d'une école particulière des kabbalistes, qui est la kabbale de Luria, comme on dit à l'université, la kabbale du Hari, comme on dit dans les yeshivot, du Hari à Kadosh, comme on dit chez les kabbalistes, qui est que ce terme « et la terre était » signifie aussi en hébreu « était devenu »,« haïta ». Or, ça signifie, c'est cette surprise que je voudrais restaurer, que c'est... Le premier verset nous confirme que c'est bien Dieu qui a créé notre monde, que le discours biblique appelle les cieux et la terre. Résultat, la terre était chaos. Est-ce que vous avez déjà entendu cette surprise? Je la formule très simplement pour détendre l'atmosphère. Et si ce n'était pas Dieu qui l'avait créé ce monde, ça serait encore pire. Et on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Et est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que le texte nous dit très directement, très simplement, que le résultat du fait d'avoir créé, c'est d'avoir créé un chaos, qui est tout de suite défini comme étant obscurité, vide, mélange de vide, et tout de suite on est rassuré. Mais l'esprit de Dieu créateur plane à la surface des eaux. Tout ceci est incompréhensible si on ne le lit pas dans le sens simple et dans l'ordre des propositions. C'est pourquoi, lorsque nous allons aborder le problème du mal, nous apercevrons qu'une de ces difficultés que je viens de signaler tout à l'heure par allusion, c'est que, ne trouvant pas de solution, on est conduit à imputer le mal à Dieu lui-même. Tout simplement parce qu'il est tout puissant dans notre